Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le titre. Lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur annonce un plan opérationnel pour dissuader les bandits Kuluna. Jacquemain Chabani l'a annoncé hier dans un briefing de presse à Kinshasa, c'est au lendemain du décès d'une journaliste attaquée par des Kuluna. Conditions de vie difficiles pour plus de 1500 ménages de déplacés vivant dans le site de Lubangira à Oicha dans le Nord Kivu. Constat fait hier lors d'une visite du directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme sur place. Patrice Vahar est en mission dans la région depuis vendredi dernier. Et puis, l'invité de ce midi, l'ingénieur agronome Mumu Azama Mouri. Il était parmi ceux qui ont pris la parole à la 10e édition du Forum Makutano à Kinshasa. Invité de ce journal, il parle des aspects socio-économiques du manioc et appelle les Congolais et les autorités du pays à mieux investir dans le manioc et à ne pas se limiter qu'à son aspect alimentaire. Madame, Messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, affirme avoir lancé le plan opérationnel pour baisser le taux de criminalité urbaine dans la capitale. Il l'a dit hier dimanche lors du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Le patron de la territoriale a également annoncé la mise en œuvre des comités locaux de sécurité en vue de dissuader les bandits communément appelés Kuluna. On écoute le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Au niveau du ministère, nous sommes en train de faire en sorte que notre police ait les moyens de sa politique pour mettre fin au phénomène Kuluna. La police ne travaille pas seule. C'est pourquoi nous avons signé les partenariats avec la justice en termes des initiatives des audiences foraines. Nous faisons des séries de réunions pour que le processus de la réforme de la police aille de l'avant pour mieux sécuriser nos populations. Notre objectif est d'éradiquer le phénomène Kuluna. Bientôt là, nous allons lancer la campagne de mise en place des comités locaux de sécurité au niveau des communes, des quartiers et des rues. Nous allons mettre en place ces dispositifs à travers toutes les provinces parce que le phénomène de banditisme urbain est alimenté par les mêmes gens des quartiers qui insécurisent leurs concitoyens.
Notez que cette réaction du vice-premier ministre en charge de l'intérieur intervient au lendemain du décès d'une journaliste de la RTNC de suite d'une attaque des Kuluna la semaine dernière, non loin du camp Kokolo. Et de son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, encourage la population à s'impliquer dans la sécurisation de la ville en dénonçant ces bandits qui se cachent dans la population. Pendant ce temps, 4 personnes, dont 3 femmes et un enfant, habitant le secteur de Lulalumene, dans le territoire de Kimvula au Congo central, ont été enlevées par des présumés Mobondo en route vers Popokabaka dans le Kwango, ce depuis près de 2 semaines. L'administrateur de Kimvula qui livre l'information indique que le véhicule transportant ces victimes était tombé dans une embuscade au niveau du village Ngana dans le territoire de Kimvula. Victor Lusaku appelle les autorités à renforcer la présence des forces de l'ordre entre le territoire de Kimvula et la province du Kwango où la milice Mobondo est active. Le point avec Nana Plurish Mambo.
C'est sur la route appelée communément Nzela et Simandaku, au niveau du village Ngana en secteur de Lulalumene en Kimvula, que les véhicules transportant ces victimes en partance du village Kinsafu dans le secteur de Lubisi a été pris au piège par les miliciens Mobondo. Après avoir menacé à mort les passagers, ces hors-la-loi ont enlevé 7 personnes, dont 5 femmes, un enfant de 2 ans et un homme. Ce n'est qu'hier dimanche 24 novembre, soit 14 jours après l'enlèvement, que 2 femmes parmi les 7 captifs ont regagné Kimvula. Elles affirment avoir pu se soustraire d'autres captifs retenus par les Mobondo village Milando en territoire de Popokabaka dans la province du Kwango. Ces femmes ajoutent avoir été violées brutalement par ces miliciens et que l'homme qui a été enlevé avec elles a été exécuté chemin faisant. Pour Victor Lusaku, la libération des 4 autres captifs nécessite des opérations militaires, au cas contraire ils seront aussi tués. La même source indique que les pelotons de la 12e région militaire qui se trouve dans les secteurs de Lulalumene, frontalier avec le Kwango, pour sécuriser la population face aux incursions des miliciens Mobondo, sont butés à un problème d'effectifs, de mobilité et de moyens de communication. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, on signale une faible mobilisation des acteurs humanitaires pouvant répondre aux urgences des personnes déplacées internes. Conséquence, plusieurs secteurs nécessitant de l'assistance sont non couverts. Ceci ressort du rapport du gestionnaire des sites alors que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU visitait le centre collectif des déplacés installé sur l'axe Kanyaru-Chinya dans le territoire de Nyiragongo. C'était le vendredi dernier. Chris Mukand Matande, reportage.
S'adressant à Madame Bintou Keita dans le centre collectif de Kayembe, le gestionnaire des sites dit toute la difficulté qu'il y a quand on remonte les données en rapport avec les secteurs non couverts par l'assistance et qu'aucun acteur ne se positionne. Robert Ategeka compte sur l'appui du numéro 1 de la MONUSCO.
Il y a des secteurs qui ne sont pas couverts. On plaide quand on remonte les informations pour qu'il y ait positionnement des partenaires et qu'il n'y a pas de partenaires qui se positionnent. Ça cause un souci. Que les acteurs humanitaires puissent continuer à se mobiliser afin de venir en aide cette population déplacée pour essayer de soulager leurs souffrances.
Pour le cas particulier du centre collectif de Kayembe, il faudrait augmenter la quantité d'eau fournie journellement, passer de 20 mètres cubes à plus ou moins 40, afin de répondre aux besoins de plus de 1000 ménages. D'autre part, certains des déplacés disent ne pas supporter la nourriture fournie par le partenaire. Le gestionnaire des sites estime que la préférence va plutôt à l'argent qu'au vivre.
Souvent on donne de la nourriture en nature et souvent on donne de l'argent. Avec les entretiens, avec les ménages, on trouve qu'ils préfèrent l'argent que le vivre. Puisqu'à travers cet argent, ces ménages se procurent de la nourriture de son choix.
Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Par ailleurs, plus de 1500 ménages des déplacés vivent difficilement dans le site de Lubangira à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Constat fait dimanche par Radio Kapi lors d'une visite dans ce site du directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, Patrice Vahar, est en mission dans la région depuis vendredi dernier. Tous les déplacés demandent une seule chose au gouvernement, le retour de la paix. Guylaine Kassas y a été sur place. Voici son constat.
Le site des déplacés de Lubangira à Oicha héberge deux femmes, des hommes et des enfants répartis en plus de 1749 ménages. Dépourvus de presque tout, ces déplacés mènent une vie misérable, comme l'explique ici Imelda Kavira Charonere, la présidente des déplacés d'Oicha.
C'est une vie misérable que nous menons ici. Nous attendons chaque jour des humanitaires jusqu'à nous fatiguer. La dernière assistance était du PAM il y a 7 mois. Depuis lors, rien ne nous a été donné. C'est pourquoi même plusieurs d'entre nous s'adonnent au vol. Surtout lorsqu'il s'agit de femmes, si un homme l'attrape dans son champ, il la viole plutôt que de la tuer. Nous avons seulement besoin de la paix pour retourner chez nous.
Il est urgent que le gouvernement congolais fournisse davantage des efforts pour écouter le séjour de ses citoyens dans ces lieux de refuge, a dit pour sa part Patrice Vahar, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO.
Je sors tout simplement avec un double sentiment. D'abord de frustration que ces personnes soient obligées de vivre loin de leur maison, mais aussi rassurés par le fait qu'ils n'ont qu'une seule demande, celle d'avoir la paix. C'est très important qu'on conjugue nos efforts avec celle des autorités pour écouter leur séjour ici et qu'ils retournent dans leur milieu habituel.
Ce site de déplacés est érigé à Oicha depuis plus de 5 ans. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 80% du café itourien échappe au circuit normal d'exportation. C'est ce qu'indique le responsable du bureau d'information commerciale au poste douanier de Maagi. Nous sommes en Ituri. En cause, le manque d'encadrement des agriculteurs, ajoute la même source. Une situation qui occasionne d'énormes manques à gagner au pays, particulièrement à la province de l'Ituri. C'est ce que nous dit Sadiq Aboubakar.
Le café est cultivé dans 3 territoires de la province de l'Ituri. Il s'agit entre autres du territoire de Maagi, qui produit du café arabica dans presque toutes ses chefferies. Le territoire de Djougou produit du café dans sa partie nord et celui d'Arou vient de commencer la culture après plusieurs décennies d'abandon. Cependant, plus de 80% de toutes ses productions traversent frauduleusement la frontière à l'état brut, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour le pays, affirme Joël Oulard, le responsable du bureau d'information commerciale au poste douanier de Maagi.
Il existe une quantité importante qui est produite chaque saison. Malheureusement, cela ne profite pas à la RDC car exportée par trafic transfrontalier et ce sont les pays voisins qui tirent profit du café itourien.
Le directeur provincial de l'ONAPAC en Ituri reconnaît la situation. Max Kandolo Lucele l'attribue plutôt à la porosité des frontières.
Nous canalisons presque 20% de la production de l'Ituri. Cela est dû à la porosité des frontières et au manque d'opérateurs qui respectent les normes à l'exportation.
Pour remédier à cette situation, Joël Oula recommande entre autres la réhabilitation des routes des dessertes agricoles et l'assainissement du climat des affaires pour faciliter l'investissement local et étranger. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC Lomami Sud, a décrété ce week-end un embargo contre toutes les activités de l'Union des défenseurs des taxis-motos évoluant dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Cette décision a été prise au cours d'une session extraordinaire tenue vendredi dernier. Le comité de l'UNPC Lomami Sud, ville de Mweneditu, dénonce l'agression physique, le vol des téléphones, la destruction des matériels de reportage des deux journalistes invités pour couvrir la manifestation jeudi dernier des conducteurs des motos qui manifestaient contre le recouvrement forcé de la taxe de stationnement imposée par la mairie. Écoutons à ce sujet la déclaration de l'UNPC lue ici par Mona B. Kaninda, secrétaire.
UNPC, sous-section de Lomami Sud, entendez par la ville de Mweneditu, territoire des Lulu et de Kamiji, réunie en session extraordinaire pour tabler sur l'agression barbare de nos confrères journalistes et reporters, en l'occurrence Stani Kazadi et Jean-Paul Kowel Chimanga, par le taximen moto de l'Union des défenseurs de taxi moto de Mweneditu. En pleine couverture de la manifestation, des protestations de la part de taximen contre la taxe de stationnement initiée par le maire de Mweneditu, nos confrères ont été victimes d'extorsions de matériel, des reportages d'argent et s'en sont tirés chemises déchirées. Vu ces actes de barbarie criants, l'UNPC sous section de Lomami Sud décrète un embargo contre toutes les activités de taximen moto dans les médias locaux et exige sans délai la réparation tout en demandant à la justice de faire son travail pour que pareille situation ne se répète plus.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics prévu ce lundi vient d'être renvoyé à une date ultérieure. D'après un communiqué signé par le rapporteur Jacques Joly, le bureau de l'Assemblée nationale a transmis la motion de défiance le vendredi 22 novembre 2024 au service de la première ministre ainsi que du ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics. Ces derniers n'ont pas pu réceptionner ce courrier en raison de leurs horaires de travail. Soucieux de respecter les prescrits des articles 146 et 147 de la Constitution ainsi que 235 et 136 du règlement intérieur de l'Assemblée, le bureau communiquera la date du débat et du vote après la transmission formelle. Notez qu'en principe, conformément à la Constitution, cette motion devrait être débattue dans 48 heures après son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale.
Actualité internationale.
Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre débutent aujourd'hui et iront jusqu'au 10 décembre. Pendant cette période, les ONG redoublent d'efforts pour sensibiliser et dire non à toutes les formes de violences faites aux femmes. En Côte d'Ivoire, le constat reste alarmant. Selon le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, au moins une femme sur trois subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Parmi les plus vulnérables figurent les travailleuses du sexe, souvent marginalisées et exposé à des abus répétés. Et puis, le cinquième et dernier cycle de négociations pour l'élaboration d'un traité mondial visant à éradiquer la pollution plastique a débuté ce lundi en Corée du Sud. La rencontre qui se déroule à Busan du 25 novembre au 1er décembre prochain a débuté par des appels de représentants en faveur de l'adoption d'un traité ambitieux et robuste pour mettre fin à cette crise environnementale.
L'invité.
La 10e édition du Forum Makutano a vécu à Kinshasa. Parmi ceux qui y ont pris la parole figure l'ingénieur agronome Mumu Azama Amouri. Il y a invoqué les aspects socio-économiques du manioc. Il appelle les Congolais et les autorités du pays à mieux investir dans le manioc et à ne pas se limiter qu'à son aspect alimentaire. Dans cette interview accordée à Baben Pongo Masimango, Mumu Azama Amouri nous fait le point sur son apport à Makutano. Il fait aussi sa lecture de ce forum annuel qui réunit décideurs, investisseurs et entrepreneurs. Suivez.
Monsieur Mumu Azama Amouri, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de prendre part à la 10e édition de Makutano. Qu'est-ce que vous avez retenu de façon générale?
Non, nous avons retenu que les organisateurs de Makutano ont fait un bon travail. Ils ont permis la rencontre de plusieurs personnes et dans différents secteurs. Et nous étions plus là pour le secteur agricole qui a quand même réuni certaines têtes importantes. Et il faut quand même préciser qu'on a eu la présence du président honoraire nigérian Olusegun Obasanjo, plus certains acteurs nationaux.
Personnellement, quelle a été votre contribution?
Ma petite contribution a été un exposé sur le manioc. On a plus vu l'aspect socio-économique du manioc.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, l'Africain en général, le Congolais en particulier, on a tendance à voir le manioc comme nourriture seulement. Or, le manioc entre aujourd'hui dans l'agro-industrie qui touche différents secteurs qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, à travers le monde, on compte plus ou moins 2000 produits dans lesquels on retrouve du manioc. Le manioc sous forme amidon, pur ou modifié. On peut toujours voir encore l'agroalimentaire avec les boulangeries, la panification. Actuellement, la RDC a pu normaliser. Il y a des normes sur l'incorporation du manioc dans la production du pain. Les études montrent que incorporer au moins 10% de manioc dans la production du pain, la RDC épargnera minimum 300 000 dollars américains. Si vous prenez la Thaïlande, qui est le troisième producteur mondial de manioc après la RDC, et la RDC vient en deuxième après le Nigeria. Le Nigeria et la RDC produisent principalement pour l'alimentation. Or, la Thaïlande produit pour la transformation et l'exportation. Aujourd'hui, le Nigeria est premier producteur de manioc et à moins d'un million de kilomètres carrés. Mais il produit 20 millions plus de tonnes que la RDC. On n'exploite pas réellement l'aspect agricole comme il le faut. Si on doit investir sérieusement, on peut copier la Thaïlande. La Thaïlande exporte l'amidon. En Afrique, la tonne de l'amidon du manioc est vendue dans la fourchette de 300 à 400 dollars. Mais le même amidon est vendu 10 fois plus cher en Chine. Parce que la Chine, à elle seule, consomme 40% de l'amidon du monde. Toujours dans l'aspect transformation du manioc. Vous avez le manioc en produits cosmétiques, le manioc dans la colle, dans la production de papier, et c'est du papier de qualité. Le manioc dans la production du triplex de bois. En pharmacie, en pharmacopée, on ne parle même pas parce que c'est vraiment l'une des bases dans plusieurs produits. Mais nous, on n'exploite pas le manioc. Le manioc peut nous permettre à avoir du biocarburant. Il suffit de bien investir et ce n'est pas des investissements importants. Et nous savons la difficulté que nous avons dans certains coins du pays pour être approvisionnés en carburant.
Pendant Makutano, est-ce que vous avez eu du répondant par rapport à ce que vous avez développé sur le manioc?
En tout cas, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées. Il y a eu des contacts qui ont été partagés. Espérons que les retombées suivront.
Et alors, en termes de perspective, est-ce que Makutano est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs agricoles? Et bien, s'il faut booster ce forum, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous?
Bon, pour ce panel, Makutano a réuni un bon nombre d'acteurs. Il y a eu les politiques, les grandes structures et les grandes organisations. Mais personnellement, j'ai constaté un maillon absent, les paysans. Or, l'agriculture du Congo est soutenue par les petits paysans. Il faudrait que Makutano essaie de voir comment organiser des rencontres, des enquêtes, récolter les réels problèmes de ces paysans et mieux canaliser les besoins, les visions de ces paysans pour qu'ils soient mieux entendus et compris par nos politiques. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose. Hein. Le Congo rêve grand et aime investir dans des grandes choses. Et ces grandes choses, de fois, nous montrent que ça ne marche pas. Or, c'est possible de partir sur plus petit, mieux organiser les petits. On peut réunir ces ménages agricoles, ces paysans, en coopérative, en organisation paysanne, et créer des grandes sociétés.
Merci Monsieur Azama Amori d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie Madame Pongo.
Voilà, notre invité est ingénieur agronome. Il s'entretenait avec Babel Mpongo Massimango. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Billy Landry Betou. Merci d'avoir été des nôtres.